Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. En Nouvelle-Zélande, des attaques contre deux mosquées de la ville de Christchurch dans le sud du pays ont fait au moins 49 morts et une vingtaine de blessés ce vendredi. C'est ce qu'a annoncé la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern qui parle d'un acte terroriste. Le massacre commis par un tireur de nationalité australienne est d'une ampleur sans précédent dans l'archipel du Pacifique Sud et a soulevé l'indignation dans le monde musulman. Cheikh Ahmed Al-Tayeb, le grand imam de la mosquée Al-Azhar du Caire, institution très prestigieuse de l'islam sunnite, a condamné aujourd'hui ces attaques et a appelé à combattre les groupes racistes. Le tireur impliqué dans le massacre a publié au préalable un manifeste raciste sur Twitter avant de diffuser en direct des images vidéo des attaques. La police néo-zélandaise a demandé à la population de ne pas partager les images dans lesquelles on voit l'assaillant tirer sur des fidèles à bout portant. 4 suspects, 3 hommes et une femme ont été interpellés après les attaques. Le tireur présumé a été inculpé pour meurtre. Mauvais temps en Afrique australe, au Mozambique, Beira, la grande métropole du centre du pays avec plus de 500 000 habitants, est pratiquement coupée du monde aujourd'hui après le passage dans la nuit de jeudi à vendredi du cyclone tropical Idai qui y a causé d'importants dégâts selon une première évaluation des autorités locales. Depuis le début du mois, le système dépressionnaire tropical associé à cette tempête a provoqué des pluies diluviennes dans le nord et le centre du pays qui ont déjà fait au moins 66 morts et 111 blessés, plus 17 000 déplacés et plus de 140 000 sinistrés dans les zones affectées. Idai a aussi frappé le sud du Malawi voisin. Le bilan y est de 56 morts, 80 000 déplacés et plus d'un million de sinistrés. Le président malawite Peter Mutharika a proclamé l'état de catastrophe naturelle et le ministre de la Sécurité intérieure, Nicolas Daoussi, a lancé un appel à l'aide de la communauté internationale. Protection de l'environnement en Afrique, c'est aujourd'hui que se termine à Nairobi au Kenya la 4e assemblée de l'ONU pour l'environnement qui a réuni plus de 4700 officiels, dont plusieurs chefs d'État. Les participants se sont engagés à œuvrer pour trouver des solutions aux défis écologiques du continent africain. Les précisions de John Lyndon.
Les pays africains doivent lutter contre le changement climatique avec un nouveau modèle économique basé sur les énergies propres, la protection des forêts et la technologie pour aider les agriculteurs. Mais ils auront besoin de plus d'investissements et de recherches pour y parvenir, ont déclaré jeudi des dirigeants présents à ce rendez-vous. L'Afrique ne peut pas répéter les erreurs passées des pays industrialisés qui s'enrichissent à l'aide de l'énergie produite à partir de combustibles fossiles polluants tels que le pétrole et le charbon, a souligné le président français. L'exemple du Kenya, qui tire déjà les trois quarts de son énergie de sources renouvelables, notamment solaires, géothermiques et éoliennes, a été évoqué. Lors de ce sommet, le troisième du genre, le président Uhuru Kenyatta a promis que son pays veillerait à ce que les forêts couvrent au moins 10% des terres d'ici 2022. Le continent ne produit que 1,5% de son électricité à partir de l'énergie solaire, contre 7% en Allemagne. La Banque mondiale prévoit de dépenser au moins 12 milliards de dollars en Afrique entre 2021 et 2025 pour soutenir des projets d'adaptation et de résilience, ont déclaré ses responsables.
Toujours concernant la protection de l'environnement et des richesses écologiques en Afrique, au Cameroun, 4 trafiquants d'espèces animales protégées ont été arrêtés hier à Douala alors qu'ils s'apprêtaient à vendre 2 tonnes d'écailles de pangolin, un petit fourmilier écailleux menacé d'extinction, ainsi que 200 défenses d'ivoire. Plus de détails avec Irénée Hermann Umbo.
C'est une énorme saisie. D'habitude, nous saisissons des dizaines, quelquefois des centaines de kilos d'écailles. Ici, on parle de plus de 2 tonnes. S'est réjoui le directeur adjoint de l'ONG Laga, Eric Kabata, avec qui les forces de l'ordre ont conjointement mené l'opération. Il précise que les personnes arrêtées font partie d'un réseau de trafiquants qui exportaient habituellement leurs produits vers le Nigeria. Selon lui, la valeur de cette saisie record est estimée à 150 millions de francs CFA. Les écailles de pangolins sont recherchées en Asie du Sud-Est pour leur prétendue propriété médicinale contre l'acné, le cancer et l'impuissance. Malgré l'interdiction de son commerce en 2016, l'animal peut encore s'acheter dans des échoppes de Hong Kong où ses écailles se vendent à prix d'or. 1 million de pangolins ont été abattus dans les forêts d'Afrique et d'Asie au cours des 10 dernières années.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le programme alimentaire mondial appuie le retour des populations dans la région du Pôle proche de la capitale à travers des activités de relance agro-pastorale. La directrice régionale du PAM, Lola Castro, qui s'est rendue dans les zones affectées par l'insécurité alimentaire, encourage les communautés à beaucoup produire. De Brazzaville, notre correspondant en scène, Séverin.
Le PAM est l'une des agences de l'ONU qui accompagne actuellement les populations du Pôle à se relever après le conflit armé. La réhabilitation de la piste agricole Missié-Missié-Munkuto soulage déjà les populations qui évacuent leurs produits agricoles vers les centres de consommation. À Mindouli, le PAM mobilise les jeunes à relancer les activités piscicoles. L'espoir renaît ici après de longs mois d'incertitude.
Nous, on a dit merci, ok, nous allons travailler avec le PAM plus l'APDRA. On va curer tous les étangs, reformer les digues et la nouvelle méthode, il faut faire des pêcheries. Ça, c'est un étang de production. On doit avoir 7000 à 8000 poissons. Nous les vendons seulement ici-là.
Maintenant, là, vraiment, depuis que le vieux maman a entendu qu'on nous aide maintenant là, donc ils sont contents.
Nous avons la volonté de travailler parce que sans le travail, tu ne peux pas gagner quelque chose. Parce qu'il y a la morale que le chef nous a proposé que non, on va vous donner des bottes, des imperméables. Là, on a reçu des pelles, des bottes.
La directrice régionale du PAM, Lola Castro, qui a visité ces projets de réhabilitation du poule, se dit satisfait.
Pour moi, comme directrice régionale de PAM, c'est très intéressant de venir à Pôle et être dans ces régions. On a travaillé avec les communautés locales pour voir que les gens ils peuvent revenir avoir de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire, c'est pour les gens de commencer à vraiment produire encore une fois et achever des produits qui vont aller au marché et développer la région.
Dans la Bouenza, le département voisin, le PAM soutient les cantines scolaires dont l'impact sur les études des élèves n'est plus à démontrer. Michel Kombo, directeur d'une école primaire à Madingou.
Depuis qu'ils ont la cantine, les enfants ne fuient plus les cours. Donc même ceux qui sont malades forcent quand même de venir. Nous avons souvent constaté dans les sacs des enfants, ils oublient même l'ardoise, mais l'assiette est là.
Annick Goma, directrice d'école à Madingou Gare.
Ça augmente le taux de fréquentation. Il y a moins d'abandon à l'école. Pourquoi ? Parce que je constate souvent quand les enfants sont malades ici, on demande aux enfants de repartir à la maison, ils refusent. Ils attendent que la nutrition. Donc vraiment, je félicite le projet PAM.
Le PAM veut aider les populations à beaucoup produire pour assurer la sécurité alimentaire dans plusieurs régions du pays. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En Algérie, de nouvelles manifestations contre le pouvoir sont en cours à Alger ce vendredi, jour hebdomadaire de la contestation dans le pays et première occasion de protester depuis que le président Abdelaziz Bouteflika a reporté l'élection présidentielle, prolongeant sine die son mandat au-delà de son terme prévu le 28 avril. Actualité aux États-Unis maintenant, le Sénat américain a voté jeudi en faveur d'une résolution pour annuler la procédure d'urgence nationale décrétée par le président Donald Trump. Procédure visant à débloquer des fonds nécessaires à la construction d'un mur à la frontière du Mexique. Le vote 59 voix contre le plan du président et seulement 41 pour. Les détails avec Jacques Aristide.
Il s'agit d'un sérieux revers pour le chef de la Maison-Blanche. Des élus républicains s'étant joints aux démocrates pour approuver le texte. Donald Trump a promis de poser son veto. Le président a déclenché l'arme de l'urgence nationale il y a un mois après le refus du Congrès de lui octroyer les 5,7 milliards de dollars de budget qu'il réclamait pour construire son mur à la frontière mexicaine. Par cette procédure, le président américain s'est arrogé des prérogatives budgétaires normalement réservées réservé au Congrès. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a tenté en vain de raisonner ses troupes jusqu'au bout. Le président opère dans le cadre de la loi et la crise à notre frontière est bien trop réelle, a-t-il déclaré dans l'hémicycle. Le sénateur et ex-candidat à la présidentielle en 2012, Mitt Romney, a notamment décidé de voter avec les démocrates en faveur de la Constitution, dit-il. La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a approuvé cette même résolution le mois dernier.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.